9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
Quand cette très particulière année 2020 touchera à sa fin et que quelqu'un aura l'idée de scruter les écrans, on se rendra compte qu'on a beaucoup vu son visage, Elsa Silberstein. Je vais y arriver, je vous promets. Le prouve encore mercredi prochain. Elle joue dans Adorable, film de Solange Sicurel, l'histoire d'une mère et de son ado de 14 ans qui ne se comprennent plus. Alors c'est la guerre, œil pour œil, dent pour dent. Bonjour Elsa Silberstein.
Bonjour.
Pardon d'avoir d'entrée écorché votre
pas
nom.
Pas du tout, pas de problème.
Voilà, ça arrive.
Hein, le matin avec un Z, ça peut toujours parfois être difficile.
Ouais, et puis surtout le lundi, je ne vous cache pas. Hein. Jouer dans un film qui sort cet été, c'est un peu compliqué, c'est particulier.
Ben non, je suis très positive, moi.
Oui, oui, mais bon. Est-ce que vous craignez quand même la relative désertion des salles, hein? On n'a pas retrouvé la fréquentation habituelle.
Alors, non, moi j'ai une autre théorie. Je pense que mercredi dernier, ça a très bien marché, le film de Michael Youn. Et qu'en fait, le côté Netflix, je fais ma série, je mets une pantoufle et je prends un bol de soupe... inconsciemment, je ne dis pas que c'est conscient, mais je pense que c'est aussi lié à la maison et au confinement.
Ouais.
Et que les gens ont envie de sortir.
C'est fini, ça.
Ah, mais moi, j'en suis persuadée.
Ouais, mais c'est l'été. Preuve, c'est... Je ne veux pas vous miner, hein, mais c'est l'été, il fait beau.
Je m'en vais tout de suite ou je reste un peu à l'émission, en fait. Et alors, non, aujourd'hui, il ne fait pas beau à Paris. Et puis, les gens, d'avoir envie d'aller au cinéma, c'est au contraire, c'est une distraction. Au contraire, quand il fait beau, qu'on mange une glace et on est là à 18h, on dit tiens, si on allait au cinéma. Non, non, au contraire, je trouve que c'est au contraire. J'étais heureuse de voir que ça reprenait bien, que les chiffres étaient bons, que les deux derniers, Tout simplement noir a bien démarré, le film de Michael Youn aussi.
Oui, et Adorable. Été 85 aussi, qui marche pas mal.
Voilà.
Ouais, et François Ozon.
Absolument. Et c'est des films plus d'auteurs et tout ça... Et voilà, et je trouve ça formidable qu'on sort sur beaucoup de copies. Et j'espère que là, c'est presque le premier film familial, en plus, Adorable. Puisque le film de Michael Youn, c'est très, très drôle, je l'ai vu.
Vous êtes retournée en salle, alors, vous-même?
Ah oui, absolument.
Et avec le masque tout le temps, ou comment ça se passe?
Enfin, en tout cas, là, je le mets quand j'arrive, puis après, je l'enlève quand je regarde le film, mais... maintenant, je ne sais pas si c'est obligatoire dedans aussi.
Alors, on ne sait pas très bien. Il y a deux versions, figurez-vous.
Mais écoutez, de toute façon, il ne faut pas être paranoïaque. Je ne me permettrai pas de parler des mesures sanitaires. C'est très bien, cette mesure. Ça va en rassurer certains, je pense, qui auront peur d'aller au cinéma. Et voilà.
Adorable au pluriel, film de Solange Sicurel. Lucien Jean-Baptiste joue votre ancien mari. Yoni Matos, premier rôle, votre fille. Hélène Vincent, votre mère.
Ouais.
Max Boublil, votre nouveau mec. Et Amir joue Amir, le chanteur que vous adorez. Vous êtes Emma Renaud. Comment la décrivez-vous? Une psychologue, ça c'est sûr.
Ouais.
C'est son état civil. Et elle est dépassée, non?
Ah ouais, elle est dépassée. Ouais. Ouais. Non, c'est une maman d'une fille de 13 ans qui pense qu'elle a tout compris au fonctionnement des êtres humains, aux âmes humaines, aux gens. Et puis, quand sa fille devient ado, elle perd pied, elle vacille. Et ce que je trouvais original dans le scénario, puisqu'il y a eu des films comme LOL, que je trouve remarquable et merveilleux, qu'on a tous aimé, là, ce qui était drôle, c'est que c'est mon personnage, c'est la mère de 40 ans qui fait une crise d'adolescence. Et c'est ça que je trouvais vraiment original. C'est-à-dire que au travers de ma fille qui fait sa crise d'ado, je m'interroge sur moi-même et je me dis mince, j'ai peut-être raté certains trucs, peut-être que moi non plus j'ai pas été une ado super, j'ai peut-être été une ado chiante, et je vais voir ma mère qui est géniale, Hélène Vincent, et j'essaie de régler mes comptes avec ma propre mère, et enfin tout part en couille, comme on dit, voilà.
Ah ouais, vous le dites, vous?
J'ai osé le dire,
ouais. Bah ouais, remarquez, pourquoi pas.
Je suis pas, ça va dans ma bouche, ça va.
Ça crapait votre cas. Ah là là,
tout
c'est mal parti,
quoi, si vous préférez, Pascal.
Quoique. Adorable, après-demain dans les salles
bande
annonce.
Pas vraiment adorable.
Je vous souhaite que l'adolescence ne soit pas héréditaire.
Merci. Bon.
Mais Lila, qu'est-ce que tu fous?
Tu vas être en retard à l'école.
J'y vais pas, je fais grève.
J'irai à l'école si tu me laisses sortir vendredi soir.
Je reste zen.
Alors bonne journée, Lila.
Maman, c'est ma vie qui en dépend.
Et tu sais que je suis raisonnable et que tu peux me faire confiance.
Surprise. J'ai 14 ans avant toi, tu montes.
Si j'étais toi, je serais vigilante.
Une ado en colère peut être imprévisible.
Tu te fous de ma gueule?
Sale petite conne de merde, de gosse gâtée pourrie.
C'est ton nouveau téléphone.
Tiens, il n'est pas tactile. Faut appuyer sur les touches.
C'est quoi ça?
Non, c'est rien. Tout est sous contrôle. Y'a pas de problème, je gère.
Mais qu'est-ce que j'ai foiré?
Je m'étais juré d'être différente de toi, maman, de faire autrement, mais regarde-moi!
Jusqu'à quel âge il reste ado? Parce que moi, j'en peux plus.
Tu
veux pas que je la prenne chez moi.
Ah non, je me la garde.
Adorable, Apprenez-moi dans les salles. Alors, c'est très franchement une comédie, Elsa Duberstein, mais une comédie, ça dit des choses, même en riant, c'est le principe. Que dit ce film pour vous ?
Je pense que toutes les comédies que j'ai pu aimer, c'est toujours le fond, doit être profond. Ça n'existe pas pour moi une comédie comme celle-ci. Justement, ça parle de la transgénérationnelle. Ça parle du rapport mère-fille, de comment on fait, est-ce qu'on fait mieux que sa maman, est-ce qu'on fait pareil.
Vous croyez beaucoup à ça, pardon de vous interrompre, c'est-à-dire aux répliques en fait.
Beaucoup, beaucoup. Je veux dire, on est tous dans la... dans la reproduction, même inconsciente, il y a des atavismes. Qu'est-ce qu'on vous a fait subir ou quelle éducation vous avez eue? Qu'est-ce que vous allez reporter? Ou même quand on veut essayer de faire l'opposé, on est encore en réaction. C'est intéressant. C'est très compliqué de devenir libre, de devenir vraiment une personne qui dit « moi, en fait, mon désir, c'est vraiment ça ». On est toujours en référence. D'ailleurs, tant mieux. On est en référence avec l'éducation qu'on a eue. On n'est pas libre. Donc, finalement, quand on éduque son enfant, je pense qu'on prend des choses qu'on a connues en essayant de faire différemment, mais parfois on reproduit, bien sûr.
Mmh. Adorable sera après-demain dans les salles. Vous assurez les avant-premières ce soir et
ce
demain
soir, tout à fait.
Pour ceux qui veulent vous voir en vrai.
Ce soir, on est à UGC Ciné Cité Bercy. Et je crois qu'on va à Vélizy demain. On va à Rony. Je ne sais pas exactement les...
Enfin, vous êtes dans le coin.
On
dira
tout à l'heure. Oui, en banlieue. J'aurais bien aimé aller d'ailleurs en province. Il y a 269 avant-premières en province demain. Donc c'est merveilleux et je tiens à dire qu'il y a souvent des beaux succès l'été de films. Si vous pensiez que les gens n'allaient pas au cinéma l'été.
Oh, c'est bon, j'ai rien dit. Elsa Duberstein est dans Culture Média, on revient.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Nous sommes avec Elsa Duberstein qui sera mercredi sur tous les écrans de France. Visiblement il y a beaucoup de copies. Comme on dit, hein. Pour ce film adorable, Famille au bord de la crise d'ado, avec également Lucien Jean-Baptiste, Yoni Matos et Hélène Vincent qui joue.
Et Max Boublil.
Et Max Boublil, ouais, effectivement. Ouais. Je le disais, c'est une comédie. Comment joue-t-on une comédie ? C'est loin d'être votre première, évidemment, Elsa Duberstein. Qu'est-ce qui compte quand on interprète une comédie ? De surtout ne pas jouer la comédie ?
Évidemment. Ouais. Évidemment. En fait, de le prendre comme un autre film, quoi. C'est pas... Jamais je prends une comédie en me disant « je prends une comédie ».
Sauf qu'il y a quand même il faut arriver à faire rire.
Non, jamais. Je me dis jamais qu'il faut que je fasse rire. Non, jamais.
Ah, ça se dit pas, alors.
J'essaie jamais de faire rire. Après, c'est des situations qui sont drôles. Si tu ris en lisant le scénario, ce qui était le cas quand j'ai lu Adorable, c'est bon signe. Mais moi, je suis dans une situation... Quand tu voyais les personnages chez Woody Allen, ils sont pas en train d'à côté de leur rôle, en train de dire « oh, je vais être très drôle ». C'est les situations qui sont drôles. Là, c'était génialement écrit par Solange Sicurel. Honnêtement, le scénar était d'enfer. Cette fille qui pète un boulon, vraiment, qui devient folle en même temps que sa propre fille, et que tout part comme ça, et que finalement, ça parle profondément des rapports humains entre une mère et une fille. C'était un peu la guerre des roses, finalement, ce film-là. J'ai trouvé que ça avait un petit côté guerre des roses entre une mère et une fille. C'est ça que j'ai trouvé original. Et surtout, justement, après le confinement, alors là, il y a beaucoup de familles, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui vont se reconnaître, et ça va les faire rigoler, parce que je pense que les rapports entre les enfants et les parents pendant ce confinement, ils ont été loin. Et ça peut intéresser et faire rire certains, surtout on s'amuse de ça.
Ouais, je pense que ça a dû dégénérer.
Ça dégénère, ça a dégénéré. J'ai eu des échos de certaines familles.
Vous avez des exemples autour de vous
hein? Pas trop, mais si, une amie productrice qui me disait que c'était très difficile avec ses enfants. Enfin, j'ai l'impression que les gens ont été quand même dépassés. Faut tenir deux enfants dans un petit appart et tout, ça va pas être facile, quoi, honnêtement.
Ouais.
Donc je pense que les gens vont se marrer. Et donc pour revenir à votre question, quand tu prends une comédie, tu prends un rôle, tu embrasses le rôle, tu le prends à bras le corps. Quand le personnage elle est bouleversée, elle est bouleversée. Quand elle tremble, elle tremble. Quand elle pleure, elle pleure. T'es pas à côté de ton propre rôle et de ce que tu joues parce que t'es dans une comédie, non, pas du tout.
Mais tu dirais que c'est une question de dosage ?
Non, parce que je trouve que dans la vie, les gens, quand ils sont dans la vérité, ce qui compte, c'est de trouver la vérité, comme toujours.
Et comment ça se trouve ? Je sais que bien que c'est votre boulot.
C'est mon travail de trouver la vérité
des
rôles.
Dans la préparation, ça
tient à quoi ? C'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. On a beaucoup travaillé avec la metteur en scène. On cherche la justesse, le rapport qu'elle avait avec sa propre mère, comment ça se reproduit avec sa propre fille. On cherche à trouver la vérité des situations. Avec Lucien Jean-Baptiste, pareil. On cherche la vérité de notre rapport. Et tout d'un coup, quand tu trouves la vérité, c'est là où ça devient très drôle. Mm-hmm. Quand tu es à fond dans les émotions, dans les sentiments, c'est là où ça devient drôle.
On le sait quand on l'a trouvé ?
Bah, je vois quand tu vois le chef opérateur rire et tout d'un coup avoir peur de faire trembler la caméra, je pense que là, quand tu sens quand la script aussi est morte de rire après la scène, c'est bon signe.
Bon, tu ne bouges pas, s'il te plaît, Elsa Zilberstein. Oui. On revient pour parler de votre filmographie, parce qu'il y a de quoi dire avec Damien Gabrespine. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Nous sommes toujours en compagnie d'Elsa Zilberstein qui revient du sud de la France. Je le sais parce que je l'ai vu sur votre compte Instagram aux 100K d'abonnés, 100 000 abonnés. Ouais. Ça passe par là, maintenant, Elsa, d'être une personnalité. Il faut donner de soi un petit peu, il faut donner des petites choses sur les réseaux sociaux.
Je ne sais pas si on est obligé. Après, c'est un choix très personnel. Moi, c'est vrai que j'ai fait Instagram depuis 3 ans à peu près, mais c'est vrai que ça, c'est pendant le confinement, j'ai vraiment eu un super beau rapport avec les gens.
Ah bah c'est sûr, oui.
Et merveilleux, j'avoue, ça a été... Et je pense qu'eux aussi, ils m'ont aidé. Ils me disaient tout le temps merci, vous nous aidez à tenir et tout. Mais eux aussi, ils m'aidaient.
Alors
c'était très beau l'échange que j'ai eu avec les gens.
On va expliquer pour ceux qui sont passés à côté. Cet été, vous postiez des vidéos, la mytho du soir, des pastilles humoristiques sur Instagram. C'était fait pour dédramatiser les empêchements. C'était ça l'idée ?
En fait, je ne me suis pas dit que j'allais faire quelque chose. C'est venu vraiment comme ça, après une discussion... avec mon ami Gad Elmaleh au téléphone, en rigolant, on a dit « Ah tiens, c'est marrant, les filles peuvent plus se maquiller, s'habiller, aller en soirée. » Basta, il ne m'a pas dit « Fais quelque chose. » J'ai raccroché, je me suis dit « Tiens, c'est bien, tiens, c'est drôle. Ok, je vais faire ça. » Mais comme ça, comme une joke. J'ai mis une robe, des talons, et je dis à mon ami « Vas-y, demande-moi ce que je fais. » Et j'ai dit « Je vais à une soirée. » Voilà. Puis j'ai vu que les gens réagissaient bien. Le lendemain, je dis « Ah, j'ai une autre idée, je vais partir tourner. » Donc effectivement, c'était toutes les choses... Finalement, je me suis mise à devenir une fille libre, pas enfermée, et à être ce personnage. Je vais tourner à New York, j'y vais, je vais sur la Lune, je vais à Cannes. Et c'est vrai que j'ai créé une fille qui a une partie de moi que ça me ressemble d'un certain côté. C'est-à-dire que j'aime bien rêver. Et donc, cette fille, elle rêvait sa vie. Et ça m'a fait rire et sourire de le faire tous les jours. Et puis, j'avais plein d'idées. Puis tous les jours, j'avais une idée, mais c'était pas du tout calculé en me disant « Bon, moi, j'ai pas de guitare, qu'est-ce que je vais faire? Je suis une actrice. » Rien du tout. Je me disais « Tiens, ça serait bien d'être dans une salle de restaurant avec du bruit. » En cherchant des bruits de restaurant, je tombe sur Vincent, François, Paul et les autres. Ah, je dis « Tiens, je vais rentrer dans le film. »
Voilà. C'est vrai que moi, je me couche chez Claude Sautet. Hein.
J'adore Claude Sautet. Mmh, ouais.
Non, mais c'est vrai, on est souvent au restaurant chez Claude Sautet.
Voilà, en plus. Ouais. Voilà, pardon.
Votre filmographie est assez impressionnante. Rebonjour Damien Cabrespine.
Bonjour.
Vous êtes plongé dedans.
Oui. Alors, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui a émaillé toutes ces dernières années. Il y a un sourire mutin, il y a un teint diaphane, il y a des grands yeux clairs, mais il y a surtout une filmographie qui navigue aisément entre la France et les États-Unis et qui commence au début des années 90 dans le Van Gogh de Maurice Pialat, puis dans un film devenu culte, Minna Tannenbaum.
C'est fini la dépendance, ma vieille, il y a un mur entre nous maintenant. Mais quelle dépendance? De quelle dépendance tu parles tout le temps, là? T'es plus un modèle pour moi, tu comprends ça? T'es plus un modèle.
En 3 décennies, Elsa, vous avez diversifié vos rôles. Vous aimez le grand écart, c'est peut-être un reste de votre formation de danseuse. On vous a connue amoureuse dans Farinelli, loufoque dans le premier film de Franck Dubosc, Tout le monde debout, ou encore faussement naïve face à Antoine Decaune dans L'homme est une femme comme les autres.
Je suis complètement vierge avec les filles, mais pas du tout avec les garçons.
Actif ou passif ?
Vous avez tourné avec Raoul Ruiz à 5 reprises, bientôt 4 films avec Claude Lelouch. Votre carrière est parsemée de récompenses, un prix Romy Schneider en 1993, un prix Michel Simon un an plus tôt, un César du meilleur second rôle en 2009. Et on le sait moins, vous avez aussi chanté La Grande Roue, un titre écrit en 2012 par le très chic Florent Marché. Vous avez donné la réplique à Andy Garcia, Gérard Depardieu ou encore à Bernard Giraudot. Vous vous êtes glissé dans la peau de Christine Angot dans le film « Pourquoi pas le Brésil » réalisé par Laetitia Masson. Alors voilà, c'est peut-être ça le style Zilberstein. Ne pas rentrer dans des cases, éviter les rôles pré-mâchés.
Pré-Florent Marché.
Voilà. Et surtout, surprendre, toujours surprendre.
Merci, hein. Merci beaucoup.
Ça vous va ?
Ouais, ça, c'est parfait.
Damien Elsa.
Parfait, parfait, j'adore, c'est vrai.
Combien de films, vous le savez vous-même ?
Non, je ne compte pas.
84, si je ne me trompe pas.
Vous comptez des petites choses. Des
je compte les courts-métrages, mais c'est aussi du cinéma.
Ah, j'ai pas fait de court-métrage.
Bon, alors, je compte...
Non, une fois avec un copain, il y a très très longtemps. Mais non, Bref, non, je compte pas du tout. Et puis j'en suis. J'ai l'impression d'en être qu'au début, en fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des réalisateurs. J'aime les réalisateurs, d'aller vers des mondes différents et effectivement de me sentir très libre et d'avoir aucune limite dans les envies, dans les films, dans les univers. C'est ce qui est excitant pour une actrice, c'est d'aller travailler avec des metteurs en scène. Je pense que c'est ça qui est vraiment excitant.
Alors, allons-y, un nom de metteur en scène, Olivier Daron.
Ben ouais. On vient de tourner ensemble un film sur Simone Veil.
Exactement, voilà. Simone, le voyage du siècle. Et vous jouez, vous interprétez Simone Veil. Vous avez ressenti une responsabilité en jouant ce rôle.
Oui, c'est sûr, bien sûr. Ah oui, énorme responsabilité. Ouais, c'était happant. C'était bouleversant et voilà, c'était on en parlera plus tard quand je reviendrai.
Ouais, juste vous demander comment vous êtes préparé pour ce rôle-là.
Non, je vous le raconterai quand je reviendrai parce que c'est très long à raconter en fait.
Bon, c'est pas grave, on va prendre le temps.
Bah oui, mais là je sors un film qui s'appelle Adorable.
Bah, c'est bon, on en a parlé.
Oui, mais la préparation de Simone Veil, c'est quelque chose d'énorme. J'ai travaillé un an dessus, donc je vais peut-être le raconter plus tard.
Et il sort quand ?
En avril 2021.
C'est sûr ?
Je sais pas, on verra.
Oui, on verra, rien n'est sûr.
On verra. Hein,
rien n'est plus sûr. Ça vous fait flipper, cette incertitude ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Mm-hmm. Ça ne me fait pas du tout flipper. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur.
Ah ouais ?
Non.
Comment faites-vous ?
Ben, j'écoute pas la télé en continu, et puis c'est tout.
Elsa Silberstein sera Simone Veil, mais elle en parlera plus tard. Bah, on revient du coup.
Bah, si vous voulez, je reviendrai, Pascal.
Bah oui.
Dans quelques
mois.
Je sais
pas avec qui, mais oui, très bien, parfait.
Bah, j'irai où vous serez, Pascal, mais bien sûr.
Bah, vous viendrez chez moi alors.
Je viendrai chez vous. On va innover, inventer un nouveau une manière de faire une émission.
Exactement, on fera un podcast.
Voilà.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et nous arrivons aux indispensables de cette émission. Elsa Silberstein, je vous présente Fred Goati.
Bonjour Fred.
Bonjour Elsa, enchantée.
Directeur de la rédaction de Jazz Magazine.
Ah, j'adore le jazz moi. Ah, pardon, c'est bah voilà. Seul, boom.
Bah ouais, non.
Mais aujourd'hui, non, c'est pas
c'est pas vraiment du jazz,
okay.
Mais bon.
Un petit peu, vous allez voir.
Ça va Fred?
Très très bien.
Vous
merci.
Nous présentez le nouvel album des Pretenders, toujours mené par la mythique Chrissy Hynde.
Oui, les Pretenders sont de retour et c'est que du bonheur. Hate for sale, chante la patronne des Pretenders, de la haine à vendre. Elle est en colère, Madame Chrissy Hynde? Non, c'est juste un clin d'œil à son groupe punk préféré, les Damned. Rendez-vous compte, depuis plus de 40 ans, premier 45 tours en 1979, Chrissy Hynde peaufine son rock subtil et sauvage, matinée de pop 60s et de soul music. Parce qu'attention, les Pretenders, c'est un groupe anglais, mais Chrissy Hynde est américaine. Grande fan de musique noire, de B.B. King, de James Brown, de Sam Cooke, mais aussi d'Iggy Pop, des Kings et de Lou Reed. Bref, une femme de goût. Mais en 1973, à 22 ans, elle plaque tout et elle part s'installer à Londres. Elle est tour à tour rock critique, au style assez mordant, vendeuse dans la boutique de fringues de Malcolm McLaren et de Vivienne Westwood. Mais elle n'abandonne pas ses velléités de rockeuse. Elle apprend même à jouer de la guitare, on se demande comment, au chanteur des Sex Pistols, Johnny Rotten. Et puis de fil en aiguille, elle forme les Pretenders. Premier album en 1980, première perle, Brass in Pocket.
Got brass in pocket. I'm gonna use it.
Oui, Brass in Pocket, donc un peu de sous dans la poche. 6 ans et une belle poignée de classiques plus tard, Chrissy Hynde signe l'un de ses plus grands tubes, Don't Get Me Wrong.
Don't get me wrong. If I'm acting so
C'était tellement bien, on peut aller au bout ? Non, on n'a pas le temps. Fred, là où Elsa avait raison, c'est que Chrissy Hynde a aussi fait du jazz.
Mais oui, c'est l'influence de son frère qui est un grand amateur de jazz et musicien de jazz. Alors en un claquement de doigts, Chrissy Hynde peut se réinventer chanteuse du creux de l'oreille. You Don't Know What Love Is, grand standard de jazz qu'elle a repris l'an dernier dans son album solo Valve Bone Wow.
You don't know what love is.
Eh oui, elle est libre, Chrissy. Il y en a même qui l'ont entendu chanter sur le dernier album de Robert Plant, la voix de Led Zeppelin. Alors Christiane peut tout se permettre, hein. Être rock, chanter du jazz, reprendre du Jimi Hendrix, inviter des légendes vivantes à jouer de la guitare sur ses disques, Jeff Beck, Neil Young et même John McEnroe. Oui, parce que quand il n'a pas une raquette dans la main, notre ami John McEnroe tâte de la six-corde. Hein. Reste que dans Hate for Sale, le nouvel album des Pretenders, elle n'a pas peur de se dévaluer, de nous faire comprendre de manière très délicate que sous ce blouson de cuir noir, il y a une femme qui peut pleurer, oui, et même en public. En anglais, ça donne Crying in Public, et c'est un grand moment d'émotion.
Crying in public's an unfortunate thing. A woman in love is a delicate thing. And a woman who's sad for no reason.
Crying in public is an unfortunate thing, but a woman in love is a delicate thing. Traduction, pleurer en public, c'est fâcheux, mais une femme amoureuse est une chose délicate. Alors, être for sale, de la haine à vendre, peut-être, mais nous, on lui offre tout notre amour à Madame Chrissy Hynde et à ses Pretenders.
Les Pretenders, nouvel album, Hate for Sale, déjà écouté, déjà aimé par Fred Goati.
Magnifique.
Merci.
Où vont vos goûts musicaux personnels, Elsa Silberstein? Bon, dans le film Adorable, vous êtes folle du chanteur Amir, mais bon, voilà. C'est le rôle, ça.
Voilà, exactement.
Et dans la vie?
Ah, j'adore. J'aime bien Mathieu Chédid, Thomas Dutronc, Benjamin Biolay, les garçons chanteurs. Amir, évidemment, mais c'est vrai que j'ai une petite tendresse pour Biolay. J'adore ce qu'il fait.
Vous avez écouté Grand Prix, bien sûr.
Déjà en boucle.
C'est vrai, vous l'avez en boucle,
ouais.
Et votre morceau préféré?
Vendredi 12.
Ah, c'est vrai?
J'adore ce morceau.
Il faut écouter Frenchie de Thomas Dutronc aussi, alors.
J'ai pas encore écouté, j'adore Thomas.
Il faut, c'est très jazz.
C'est vrai?
Ah oui.
Ah oui, jazz manouche.
Ouais, mais pas que, il reprend des choses étonnantes en pop musique. Non, c'est...
J'ai pas encore écouté.
Ça vaut le coup d'oreille.
Et puis j'adore le jazz, j'adore les voix, en fait. Donc ça peut aller de me remettre un Joni Mitchell à tout d'un coup Cat Stevens.
Un Joni Mitchell, alors.
J'adore Joni Mitchell, alors, moi. Bravo. J'adore, passion de Joni Mitchell.
Je vais faire un tour, je vais vous laisser.
Le premier album de John Lennon aussi, Plastic Ono Band, que je trouve magnifique. Voilà, refaire des tours comme ça avec des classiques. Moi.
Vous écoutez en marchant, vous écoutez chez vous, vous écoutez en
faisant du sport. Ah. Plutôt. Mm-hmm. En courant.
Ah, en courant, ouais. Ouais, là, quand on court, évidemment. là, c'est différent. Les indispensables, hein, c'est ce dont on parle actuellement. Ça consiste à aimer quelque chose, un objet culturel, et à le faire tourner. Vous auriez des choses à nous conseiller, Elsa Silberstein?
Ah zut, alors, qu'est-ce que j'ai...
Zut, alors, c'est un
nouveau grand prix. Le Grand Prix de Benjamin Biolay, je trouve que l'album est superbe. Mais bon, il n'a peut-être pas besoin de moi. Qu'est-ce que j'ai vu vous voulez dire dans les chanteurs?
Moi, tout. Lecture. Qu'est-ce que vous avez lu de bien récemment? Un film, une série? C'est difficile.
Alors, la série Unorthodox que beaucoup de gens ont vue, que j'ai trouvé remarquable.
Sur Netflix.
Oui, sur Netflix. J'ai aussi adoré un show qui est assez troublant. C'est Ricky Gervais, ça s'appelle Afterlife. J'adore l'humour de Ricky Gervais. Très pas politiquement correct, à l'anglaise. Un homme désespéré perd sa femme au début. Donc le début, il faut s'accrocher parce que c'est un peu dark. Et pareil, il n'essaye pas du tout de faire rigoler. À aucun moment, il est dans l'émotion pure de cet homme bouleversé. Et il travaille dans une petite gazette locale. Et tous ces personnages sont absolument pleins d'humanité, drôles, émouvants. Et Ricky Gervais, il est absolument merveilleux. C'est lui qui a écrit et qui a réalisé. C'est sur Netflix, c'est Afterlife.
Être comédienne, c'est se nourrir, comme vous le disiez tout à l'heure, de tout ce qui passe, la vie et aussi les fictions.
Ouais.
Ça, c'est vrai plutôt pour la littérature. Vous diriez, vous êtes plus réceptive aux bouquins qui vous forment ou davantage à l'image?
Un peu tout, en fait. Ça peut être quelqu'un que tu rencontres dans un dîner qui t'inspire. Tu te dis, oh là là, incroyable, ça et ça et ça. Après, ça m'est arrivé de prendre des notes après un dîner sur quelqu'un.
Sans blague.
Ouais. Mais un roman, d'un coup une odeur, une inspiration, tout m'inspire. Tout m'inspire.
Tout m'inspire.
Ouais, une chanson, un film me donne une idée, telle scène, de regarder Vivien Leigh jouer Un tramway nommé Désir pendant le confinement m'inspire, me refaire des films de Cazavette m'inspire, de regarder une série Netflix comme Hollywood peut m'inspirer. Tout est source d'inspiration, c'est... Après, je sais pas, on emmagasine, je pense, les acteurs, des choses, même malgré nous. Un regard, une phrase, ça ressort. Alors là, miraculeusement, un jour, autrement.
Oui, vous êtes un peu pickpocket aussi.
Totalement.
Merci d'être venue ce matin dans Culture Média, Elsa Silberstein. Le film adorable, signé Solange Sicurel, sera après-demain dans les salles. Et je vous rappelle que vous avez pas mal d'avant-premières à honorer.
Voilà.
Vous cherchez, vous allez le trouver sur le net, si vous voulez voir.
Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, c'est Créteil et Bercy.
Voilà, vous avez du boulot devant vous.